Alors bonjour, ici Maxime Laporte, je suis président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Dans le cadre des activités de notre délégation haïtienne, dont le responsable est Luc Nair-Benoît, ici présent, eh bien, nous vous présentons cette nouvelle conférence tenue à la Maison Luigi Duvernay ce 2 décembre 2017, en présence de responsables de la COMBIT pour la paix et le développement, directement venus d'Haïti. Et ça se fait en marge d'un grand colloque qui a lieu ces jours-ci à Montréal sur ce thème des droits humains. Et un colloque international. Et on remercie beaucoup, donc, Monsieur Fritinel Pierre, qui est, votre titre, c'est directeur de la COMBIT. On dit COMBIT ou COMBITÉ? COMBIT, c'est ça, pour la paix et le développement. Et également, Monsieur Anthony Audin-Mémé, qui est également membre de cette organisation. Et les deux, à tour, vont d'abord nous expliquer ce qu'est la CPD et également vont nous entretenir sur les grands défis qui se posent en Haïti en termes d'avancement des droits humains au 21e siècle. Alors, encore une fois, on les remercie beaucoup de leur présence. Je rappelle que notre délégation haïtienne a mené une première mission officielle, une première mission exploratoire en Haïti au début du mois d'octobre 2017. Nous souhaitons constituer un pont entre la société civile haïtienne et la société civile québécoise qui va agir dans tous les domaines utiles de la vie sociale, de la vie civile, éducationnelle, en matière de droits de la personne, justement, au plan économique, et j'en passe. Et voilà, sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur Pierre qui va nous présenter la nature de son organisation. Allez-y, on va vous entendre.
Je salue tout le monde et j'ai dit bonsoir avec la communauté québécoise, les Haïtiens et toutes les nations qui sont là-bas. Mon nom est Fritinel Pierre, je suis directeur exécutif de l'organisation COMBIT pour la paix et le développement, une organisation qui œuvre dans la promotion et la défense des droits humains. Il faut dire que l'organisation a pris naissance le 5 mars 2005. C'était dans un contexte assez difficile où le président Aristide avait quitté le pays. Mais malheureusement, la police à cette époque utilisait la violence dans les quartiers populaires où nous voyons beaucoup de jeunes s'impliquaient activement dans la violence et on les arrête illégalement. Nous autres, on a compris qu'il était nécessaire de se mettre ensemble pour pouvoir donner une solution par rapport à ce problème. C'est ainsi que nous avons mis sur pied cette organisation qui œuvre dans la promotion et la défense des droits humains. Mais survit quelques années plus tard le tremblement de terre de 2010, où il y avait beaucoup de cas de viol, de violence dans les camps des déplacés. Les petites filles, les femmes sont constamment violées. Et on a compris qu'il était nécessaire aussi d'apporter une solution face avec ce problème, qui était vraiment un problème nouveau dans la vie haïtienne, parce que notre génération n'a jamais connu ce que nous appelons aujourd'hui, alors à cette époque, le tremblement des terres. Eh bien, cela nous a poussé à travailler dans la protection des droits de l'enfant, où nous avons mis sur pied un bureau de doléances et d'appui pour les femmes et les enfants qui sont victimes de violences, qui fonctionnent quotidiennement aujourd'hui, qui fonctionne et qui donne des réponses en référençant les femmes, les filles et tous qui sont victimes de violences. Et comme nous travaillons dans la commune de Cité-Soleil, une commune assez difficile, eh bien l'organisation a développé des stratégies pour sensibiliser, pour accompagner, pour porter un message nouveau à la population de Cité-Soleil et de Port-au-Prince. En ce qui concerne la démocratie, surtout la démocratie participative, des activités de créativité en vue de leur aider à se retirer, ou du moins de les aider de préférence à se mettre hors de la question de la violence. Et je laisse mon collègue Mémé qui va vous parler davantage sur l'ensemble des activités de l'organisation et les enjeux et les défis sur les droits humains.
Alors, merci Fritzel. Moi, c'est Anthony Audin-Mémé. Je suis juriste et je travaille à titre de consultant et responsable de programme pour Combit pour le développement et la paix en Haïti. Comme le directeur l'a si bien expliqué, c'est une jeune organisation qui essaye d'apporter son grain de sel dans le long et dur combat pour le respect et la réalisation des droits de l'homme en Haïti. En fait, pour le débat d'aujourd'hui, je vais tenter d'expliquer un peu quels sont les grands défis auxquels la société haïtienne est confrontée de nos jours en matière de droits humains. Et bien avant, laissez-moi vous expliquer en partie le contexte actuel. Et nous sommes dans un contexte actuel où il y a un gouvernement constitutionnel qui existe et qui fonctionne après un long processus électoral qui a démarré depuis, je dirais, 2014 pour se terminer en 2017 avec la prestation de serment de M. Jovenel Moïse comme nouveau président d'Haïti et depuis tantôt 10 mois, le président et son gouvernement sont actifs sur des projets. Certains sont pas mal controversés et si vous lisez les journaux en Haïti, donc vous avez probablement entendu tous les rumeurs autour de la question du budget national pour l'exercice fiscal 2017-2018. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'il y a une certaine stabilité avec finalement un gouvernement élu qui a remplacé un autre gouvernement élu. Il s'agit du gouvernement de l'ex-président Marc-Joseph Martelly. On peut souligner aussi dans ce contexte, c'est très important, l'existence des deux branches du Parlement avec un Sénat quasi complet. Il manque seulement un sénateur, un siège, et c'est le siège qui devait être occupé par l'ancien militaire et policier et qui a été arrêté pour des problème de corruption et de stupéfiants aux États-Unis et qui purge actuellement une peine d'emprisonnement de 9 ans. Et c'est, je crois, le jeune sénateur Guy Philippe qui a été élu par la population de la Grand'Anse. Et sur les 30 sénateurs, on a actuellement 29 sénateurs et c'est une première parce que depuis bientôt 20 ans, il n'y a jamais eu un Sénat complet. Donc la situation politique a toujours voulu que le Sénat soit amputé de certains membres de façon à fragiliser la situation pour favoriser des « deals » entre guillemets et politiques. Et bien entendu, on peut s'attendre très prochainement à de nouveaux problèmes avec ce débat qui est actuel sur la fin du mandat d'environ 10 sénateurs. Alors, la loi électorale de 2013 n'a apporté aucune précision à ce niveau et les sénateurs ont été élus, ils ont eu leur certificat, ils ont prêté serment, mais personne ne savait pour combien de temps. Et c'est maintenant que le débat s'en vient et certains disent que ça devait être pour 2 ans. Donc, on s'attend à des remous dans les prochains jours avant la date fatidique du, je crois, deuxième lundi du mois de janvier 2018. Il y a aussi, je souligne, l'existence du Conseil supérieur et de la magistrature, ce qu'on appelle CSPJ. Moi, j'ai toujours considéré cette institution comme une institution mort-née parce que depuis sa création, avec la loi sur l'organisation judiciaire, cette institution n'a jamais pu jouer son rôle convenablement, si ce n'est que des membres qui sont là et qui, certaines fois, participent dans des activités officielles pour faire office de pouvoir, de troisième pouvoir, selon la répartition des pouvoirs dans la Constitution haïtienne. Et on note aussi que La Cour de cassation, jusqu'ici, est amputée d'au moins 5 juges. Je crois sur les 9, il n'y a que 4 juges qui sont constitutionnellement formalisés. Les autres sont en fin de mandat et qu'on traîne encore à nommer les juges à la Cour de cassation. Je souligne aussi l'existence d'une opposition politique qui est dominée par la mouvance lavalassienne, mais qui est profondément divisée dans leur vision et dans leur stratégie, avec d'un côté le groupe de la famille Lavalas et de l'autre côté le groupe de Petite Dessalines, les enfants de Dessalines, dirigés par l'ex-sénateur Moïse Jean-Charles, ancien candidat à la présidence aussi. Et ces deux groupes se rejoignent par rapport à leur objectif de nuire au pouvoir en place, mais pas l'objectif de reconquérir le pouvoir, parce que chacun détient sa propre stratégie et des fois ils s'affrontent aussi par rapport à ça. On a aussi une société civile plurielle, mais faible et vacillante. Une société civile qui tantôt travaille du côté ou avec un assentiment de l'émotion pour l'opposition politique, tantôt pour le gouvernement. Donc, c'est ce que je considère comme étant une société civile qui vacille parce qu'on n'a pas une lignée, une idéologie propre et des actions constructives qui va vers le changement social souhaité par la société civile haïtienne. Et je voudrais aussi souligner l'existence de la presse, qui est une presse amateur, qui vacille aussi, et je dirais même, entre guillemets, démagogique dans le sens où l'on trouve pas mal de journalistes qui n'ont pas les compétences et la formation nécessaires pour être des directeurs d'opinion et pour produire de bonnes analyses sur la situation. Donc la presse contribue aussi à certains chantages. Et tout dépend de leur affinité avec tel ou tel autre groupe. Donc, c'est ce contexte politique actuel que vit Haïti avec tous ses problèmes, les problèmes de pauvreté, les problèmes de violence, les problèmes de corruption, problèmes d'absence de services publics et autres. Et par rapport à ça, je voudrais souligner quelques éléments que je considère comme des défis en matière de droits humains. Mais en guise de méthodologie, ce que je vais faire, c'est souligner quelques événements. Et on verra à partir de ces événements et quels sont les droits qui sont visés par rapport à ces événements et qu'est-ce que ça pose comme problématique, qu'est-ce que ça pose comme défi. Et j'en viens avec des événements très récents. Je commence avec d'abord les bavures policières à la plaine du cul-de-sac et au quartier de Grand-Ravine. Tout récemment, un policier a été assassiné au mois d'octobre à Lille-la-Voie, dans le quartier de la Plaine, et ça a entraîné tout un ensemble de représailles de la part des policiers qui voulaient se venger de leurs camarades. Il y a eu une descente de toute une unité de la police, je crois que c'est l'unité de maintien de cette unité qui s'appelle Boyd, brigade d'intervention interdépartementale. Et là, il y a eu une dizaine de maisons, des maisonnées, des gens qui ont été incendiés. Un mort, des gens portés disparus, un mort déclaré, des gens portés disparus. des véhicules, des motocyclettes incendiées, des bastonnades, et la majeure partie de ces gens étaient des victimes innocentes qui ne savaient même pas ce qui se passait et qui n'avaient même pas connaissance qu'un policier aurait été abattu par des prétendus bandits de la zone. Au mois de novembre, et je crois que c'est vers 10, et je ne me souviens pas exactement de la date, mais c'est tout récemment, il y a 2 semaines, il y a eu une opération policière mal organisée dans le quartier de Grand Ravine et Tibois, et 2 policiers ont été victimes par des bandits entre guillemets. Et là encore, on a assisté aux mêmes réactions de la part des policiers qui ont investi une école publique qui existe depuis plus de 80 ans dans la communauté. Ils ont arrêté le directeur, qui est un pasteur, qui est un ancien membre de la commission présidentielle qui a travaillé sur l'évaluation des élections de 2015, je crois, qui ont été annulées. Ils l'ont tabassé, arrêté et envoyé en prison. Ils ont tué le gardien et plus d'une dizaine d'autres personnes. Donc la colère des policiers s'est abattue sur des innocentes personnes. Et on n'a pas les chiffres exacts jusqu'à présent parce qu'on attend encore le rapport de la police et le rapport de la justice aussi. Et on parle d'environ 12 morts du côté de la population civile et 2 morts du côté de la police. Je souligne cet événement pour démontrer quels sont les dangers qui existent en matière du droit à la liberté, à la sécurité de la personne, parce que, en fait, pour un rien, on peut être victime d'arrestations arbitraires, de détentions illégales et arbitraires. Il y a un usage disproportionné et illégal de la force par les policiers. Et on peut aussi parler des traitements cruels, inhumains et dégradants, notamment en milieu carcéral. Donc, on n'aura pas le temps de tout détailler sur cette situation, mais en fait, je caricature avec ces événements pour démontrer le danger, les défis qui se posent et particulièrement des questions qui doivent être soulevées dans un contexte où la ministre, après 12 ans passés, a aidé cette police à se professionnaliser. Et tout de suite après, je dirais quelques mois après le départ de la ministre, on a déjà enregistré des actes aussi odieux de la part de la police. On se demande, est-ce que cette police est vraiment capable de prendre ses responsabilités? Est-ce que les niveaux de professionnalisation dont on parle, on a déjà atteint ce niveau? Et c'est des questions fondamentales que la société haïtienne va se poser, et particulièrement avec la remobilisation de la nouvelle force armée d'Haïti. Le 18 novembre, par le président Jovenel Moïse, on se demande comment concilier ces 2 forces, c'est-à-dire les forces armées d'Haïti et la police nationale, si on s'en tient à l'histoire tout à fait récente du pays, comment la police était marginalisée par rapport à l'armée, et comment, et aussi dans une période plus récente avec le retour de Jean-Bertrand Aristide au pouvoir en 1994, comment l'armée a perdu de ses droits et a été même démobilisée par la police. Donc, il y a des non-dits, il y a des explications que la société attend parce que l'armée est remobilisée, mais on ne connaît pas la doctrine, on se dirige vers quelle armée. la population n'est pas informée. On reste aussi avec les séquelles de cette force armée haïtienne qui était considérée comme une armée de scélérats qui occasionnait tellement de violations des droits de l'homme. Donc, c'est des questions et pour moi, c'est un défi détail que la société haïtienne va devoir s'occuper, s'adresser dans les années à venir. Deuxième situation, c'est par rapport à l'administration de la justice. Et ça met en question le droit à la justice globalement. Il y a plus de 3 mois depuis que tous les juges de la République sont entrés en grève. Au mois d'août et de septembre, après des négociations avec le ministre de la Justice et le Premier ministre, il y a eu une entente et les magistrats ont fait une trêve et ont accepté de revenir pour siéger. Mais en revenant, ils ont oublié qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir des griefs. Les magistrats étaient présents, mais il n'y avait aucun commis de bureau, aucun greffier. Donc les greffiers ont également annoncé qu'ils sont en grève. Et jusqu'à présent, il n'y a pas encore de négociation entre les greffiers et le ministère de la Justice, bien que il y a une semaine, le président du syndicat des greffiers avait annoncé une trêve de 2 semaines tout en donnant un ultimatum aux responsables du ministère de la Justice. Mais la plupart des tribunaux ne fonctionnaient pas encore, notamment à Port-au-Prince et à Croix-de-Beauquet, au Cap Haïtien, qui sont les juridictions les plus importantes du pays. Et quand on parle de grève du système judiciaire, de grève des magistrats, des greffiers et autres, c'est-à-dire c'est tout l'accès à la justice qui est menacé, c'est toute l'administration de la justice qui est menacée, sans parler des problèmes récurrents et connus du système judiciaire haïtien, de la corruption qui gangrène ce système. Ben, je n'aime pas en parler parce que maintenant, quand on parle de ça, les juges vous disent donner des preuves, citer les noms de ceux qui sont corrompus, sinon et on va intenter des actions contre vous. Mais vous savez que tous ils savent, mais trouver des preuves, c'est pas toujours évident puisqu'on est dans une société qui promeut une sorte, vous connaissez le proverbe haïtien qui dit « j'y ouais, bouche pis », les gens ne parlent pas. Non, c'est comme vous dire, on voit, mais on n'en parle pas. Les gens ne parlent pas, c'est que avoir des preuves contre un juge, et les négociations se font le plus souvent, on les sait, et dans des restaurants, un peu ailleurs, donc c'est pas facile.
Personne intermédiaire aussi.
Et pas personne interposée, des raqueteurs.
Comme on dit en italien.
Exactement. Mais tout le monde sait que la justice haïtienne est une forme de marchandise. Et c'est pour ça que le peuple haïtien a développé cette culture de résignation. Quand il se passe un problème, plutôt que de se diriger vers la justice, on va plutôt se fier au bon Dieu ou aux lois ou encore se faire justice soi-même. C'est pour ça aussi que le phénomène du lynchage est encore une problématique vivante en Haïti dans ce siècle où nous vivons. Et là, ça prendrait du temps pour développer toutes les faiblesses du système judiciaire. Mais en fait, rien qu'à considérer ce déni des professionnels de la justice de siéger, de donner les services de justice à la population, est une forme de violation grave. Et c'est encore un défi que la société haïtienne doit faire face. Et toute la communauté internationale qui, depuis plus de 30 ans, a œuvré, a aidé pour le renforcement du système judiciaire, on s'est rendu compte que l'ensemble de ce travail est un travail presque en vain, parce qu'à chaque fois, il faudra recommencer. Et c'est pourquoi moi, et personnellement, dans mes réflexions, je dis toujours que même la communauté internationale doit aussi repenser ses stratégies et de partenariat et d'action avec Haïti, il faut réévaluer, il faut faire des études pour identifier les racines du problème de la justice en Haïti et redéfinir d'autres stratégies pour pouvoir effectivement apporter des solutions durables. Et j'amène un troisième élément qui sera un troisième défi. Et là encore, ce que je souligne comme événement, c'est l'école haïtienne a ouvert ses portes en septembre 2017. Mais jusqu'ici, 50% des écoles publiques n'ont pas fonctionné tout à fait. Le 18 novembre 2017, quand le président Jovenel remobilisait ses armées ou les forces armées haïtiennes, il y avait la parade sur le boulevard du Cap-Haïtien. Plus d'un millier d'élèves, de lycéens, faisaient la parade dans les rues du Cap-Haïtien, qui est la deuxième ville du pays, pour réclamer leur droit à l'école, leur droit à l'éducation, parce que depuis septembre, il n'y a plus aucun professeur ne s'est présenté dans les classes. Donc, avec le cri que on n'a pas besoin de l'armée, on a besoin des livres, on a besoin de l'éducation, ça explique tout. Il y a aussi 6 mois depuis que l'ensemble des personnels des hôpitaux en Haïti étaient en grève. On leur avait promis une augmentation pour le budget, une augmentation salariale pour le budget 2017-2018, ce qui n'a pas été effectif, et on s'attend dans les jours à venir à de nouvelles mobilisations dans les hôpitaux. Et durant ces 6 mois de grève, ce qu'on avait enregistré, c'était des femmes enceintes qui se pointaient dans les urgences des hôpitaux et qui ne pouvaient pas trouver de soins. On avait un cas d'une femme à Jacmel qui arrivait à l'hôpital et qui, n'ayant pas trouvé de soins, a donné naissance à son enfant dans les rues et qui a perdu cet enfant-là. Il y avait aussi une autre femme à Port-au-Prince devant l'hôpital général qui a perdu sa vie parce qu'elle ne trouvait pas de soins. Et on peut citer des centaines de cas pareils. Et là, c'est pour amener pour vous, pour souligner à votre attention les problématiques des droits économiques et sociaux, et je prends comme exemple ces deux éléments, le droit à l'éducation et le droit à la santé, mais j'aurais aussi pu prendre le droit au travail avec la grève et les manifestations des ouvriers de la sous-traitance qui réclamaient 800 gourdes de salaire minimum, ce qui représente environ, je crois, 800 gourdes, c'est dans les 10 dollars américains, et que le gouvernement avec les patrons ont seulement donné une augmentation de 15 gourdes, quelque chose comme 0,15 cents, ce qui amène le salaire minimal à 300 gourdes. 300 gourdes haïtiens maintenant, c'est quelque chose comme 5,80 $ pour une journée de travail. On aurait pu prendre aussi des exemples sur un peu tout, parce qu'en matière de droits économiques, sociaux et culturels en Haïti, les violations sont massives, les institutions ne fonctionnent pas tout à fait bien, les services publics ne fonctionnent pas tout à fait bien. Et c'est vrai, on peut souligner que, par exemple, pour les services des passeports, dans le temps, des gens mettaient 6 mois jusqu'à même 1 an pour avoir un livret de passeport. Mais c'est vrai qu'il faut souligner que de nos jours, il y a eu des efforts qui réduisent considérablement les temps d'attente pour un livret de passeport. Mais jusqu'à présent, le problème n'est pas résolu complètement. Les files d'attente sont encore là. On pourrait aussi souligner, et c'est là, ça va être un problème fondamental sur l'avenir de la jeunesse haïtienne, l'avenir même du pays. Et on a souligné entre 2015 et 2017, plus de 50 000 jeunes de 18 à 35 ans qui ont fui le pays vers le Chili. Et c'est toute l'Amérique latine qui en reçoit maintenant, le Brésil, le Pérou, l'Équateur. Même des destinations qui ne sont pas des destinations de rêve, comme dans le temps, les Haïtiens voulaient venir au Québec et aux États-Unis. Mais bon, désespérés parce que les situations sont encore plus corsées pour le Canada qui renforce ses lois sur l'asile politique ou encore sur les résidences humanitaires. Et pour les États-Unis, vous connaissez le problème avec la fin du TPS, c'est que dans 18 mois, le débat est très houleux en Haïti. Qu'est-ce que les gens vont faire pour accueillir ces probablement 50 000 personnes? Et là, bon, je sais que c'est un débat qui intéresse aussi la société québécoise, puisque le mois passé, vous avez reçu pas mal de gens qui ont traversé la frontière pour venir et demander secours ici à cause de la politique du gouvernement des États-Unis. Et on peut s'attendre dans 18 mois encore, peut-être dans 15, avant la fin du délai. Moi, je ne suis pas un prophète de malheur, mais le Canada, particulièrement le Québec, peut s'attendre à ce que des milliers d'Haïtiens et même d'autres peuples frappent encore vos portes et essayent de passer par la frontière pour trouver assistance ici plutôt que de retourner en Haïti où les conditions, il faut le dire fermement, ne sont pas encore réunies pour recevoir massivement 50 000 Haïtiens qui sont en situation de TPS aux États-Unis. Et j'avance un quatrième élément pour ne pas rester trop pour faciliter l'interaction avec vous. C'est la situation c'est la République dominicaine qui quotidiennement refoule des Haïtiens vers la frontière, les Haïtiens qui sont illégaux là-bas. Et vous connaissez, vous avez suivi peut-être les débats sur la loi qui est appliquée en République dominicaine maintenant pour dénationaliser des ressortissants haïtiens, et des Dominicains d'origine haïtienne. Et on a même commencé à partir de 1929. Et ceux qui sont nés en 1929. Ce qui fait environ, selon les estimations dominicaines, près de 150 000 à 200 000 dominicains d'ascendance haïtienne et d'haïtiens sans papier aussi qui sont concernés par cette mesure. De nos jours, le groupe des réfugiés, le GAR en Haïti, a compté près de 200 à 300 haïtiens qui sont refoulés quotidiennement vers les frontières. Et dans les villes frontalières comme Ansapite, et Belader et Wanamint, il y a des communautés de personnes qui sont refoulées. C'est des gens qui ont complètement perdu leurs racines en Haïti, qui n'ont plus de moyens en Haïti. Et quand ils sont refoulés comme ça, ils restent le long de la frontière pour tenter de retourner encore là-bas. Et ça cause un problème majeur, notamment dans les villes de Belader, dans les villes de d'Ansapite. Et l'assistance du côté haïtien est très limitée. Et là, je vais souligner le problème de la protection, qui va être aussi un problème majeur, en considérant probablement un retour massif d'Haïtiens vers des États-Unis, d'Haïtiens des Bahamas. Et là, je crois que les Bahamas ont donné un ultimatum allant jusqu'au 31 décembre pour que tous les Haïtiens qui n'ont pas de papier laissent le pays, sinon on va faire un razzia, on va retourner tout le monde. Et là encore, on s'attend à près de 5000 Haïtiens qui vont être refoulés des Bahamas. Le problème va être posé aussi du côté de Suriname, du côté d'autres îles de la Caraïbe qui commencent à en avoir trop. Et si vous visitez l'aéroport de Port-au-Prince de nos jours, vous allez remarquer une situation au moins 500 à 1000 jeunes, valise en main, qui attendent, comme à la loterie, qu'on cite leur nom à travers les deux compagnies aériennes qui amènent les Haïtiens vers Santiago du Chili. C'est la compagnie Pawa et l'autre, je crois, c'est Sunrise. Mm-hmm. C'est comme une loterie. Ils ont payé leur billet, mais tellement que c'est nombreux, ils attendaient. On cite leur nom et celui qui réussit, c'est comme une délivrance. Il y en a qui dorment à la belle étoile à l'aéroport pendant 3-4 jours parce qu'ils reviennent des Gonaïves, de Jérémy, de Port-de-Paix. Ils n'ont pas la famille à Port-au-Prince. Ils restent aux alentours de l'aéroport et la seule chose, qu'ils veulent partir parce que pas d'avenir pour la jeunesse en Haïti. Là, c'est un défi majeur et d'autres éléments, d'autres problématiques des droits de l'homme qu'il faut considérer aussi, je passe vite sur eux, c'est les problèmes des droits spécifiques liés aux discriminations contre les gens de la communauté LGBTI. Et l'an dernier, on a assisté à une remontée et spectaculaire des pasteurs, des religions et même d'un sénateur de la République contre les gens de la communauté LGBTI. Et le Sénat vient de voter deux lois qui enlèvent des droits déjà acquis et pour toute personne qui se reconnaît de cette communauté-là. Et on tente d'endurcir la loi. Et on a même, cette loi prévoit même que si des étrangers manifestent un quelconque comportement en Haïti, il est passible d'emprisonnement et de refoulement dans son pays. C'est-à-dire quelqu'un qui fait partie de cette communauté qui va en Haïti, il ne faut pas s'exhiber, il ne faut pas s'identifier si cette loi passe à la Chambre des députés. C'est déjà voté au Sénat. Et c'est maintenant au niveau de la Chambre des députés. Et il y a toujours des problèmes par rapport aux droits des femmes et des filles, et les viols et les agressions sexuelles continuent de constituer un problème. La prostitution, la traite des enfants, c'est des problèmes particuliers et qui vont en s'amplifiant à cause de cette pauvreté qui s'alourdit dans la société haïtienne. Mais en fait, c'est des éléments que je considère comme des défis fondamentaux, mais cela ne veut pas dire que rien n'est fait en Haïti, parce qu'il y a quand même cette société civile, je disais tout à l'heure, qui est faible, mais qui continue à travailler, à dénoncer, à répertorier les cas de violation et qui fait le plaidoyer pour que les autorités s'en viennent à leurs responsabilités. Il y a aussi, côté positif, un corpus juridique, notamment l'intrusion du cadre international des droits de l'homme, la ratification de beaucoup d'instruments internationaux et qui font corps avec le droit haïtien, donc qui fait beaucoup d'instruments et de garanties entre les mains des activistes, des militants haïtiens pour faire le travail de plaidoyer. Et il y a aussi le travail des ONG au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. On peut même aussi souligner quelques éléments de la part des pouvoirs publics pour tenter d'apporter quelques réponses à la problématique des droits de l'homme. Mais les grands défis que je viens de citer là, à mon avis, ça doit susciter des réflexions beaucoup plus profondes pour que les acteurs de la société civile, les pouvoirs publics commencent à se questionner et à trouver des solutions durables. Je crois que ce sont ces éléments que je voulais partager avec vous et on peut faire durer le débat en ayant vos réactions, des questionnements sur cet aspect-là. Merci.
Merci. Je pense qu'on peut. Merci. Alors, Monsieur Pierre, Monsieur Mémé, franchement, on vous remercie pour cet exposé éclairant, quoique troublant, saisissant, disons. Vous nous avez résumé dans les grandes lignes les problématiques majeures en termes de liberté civile, de droits humains, d'organisation de la cité, qui constituent les grandes problématiques, disons, de la société haïtienne de nos jours. Vous avez aussi esquissé certaines pistes, débuts de pistes, peut-être de solutions, lesquelles se trouvent, oui, un certain espoir qui se trouverait dans la société civile, laquelle, comme vous l'avez dit, bon, reste peut-être trop faible pour faire face à ces défis, mais néanmoins, il y a des gens qui se mobilisent et qui souhaitent générer de l'avancement, et vous en êtes, et puis et je pense qu'on peut saluer tous ces gens. J'aurais une question assez simple à poser. Vous savez, quand vous invitez à approfondir, bon, la réflexion sur la situation, je ne pense pas me tromper en affirmant que le problème central et le problème qui déstructure fondamentalement la société haïtienne, c'est en grande partie la pauvreté. C'est-à-dire que de cette pauvreté découle une bonne partie, sinon l'essentiel des problèmes auxquels on assiste. Évidemment, cette pauvreté-là est due à toutes sortes de considérations historiques, d'événements qui sont passés, et on ne fera pas l'histoire contemporaine d'Haïti, mais on s'entend. Ma question, bon, je suis allé faire un premier voyage en Haïti au mois d'octobre dernier. D'une manière tout à fait candide, j'ai eu l'impression, en fait, que il y en avait quand même de la richesse quelque part en Haïti. Du moins, en apparence. Vous savez, il y a des gens qui se promènent avec des véhicules de luxe. Il y a des gens qui... Alors, je le dis de manière très candide.
Oui, oui, bien sûr.
Un observateur, disons, j'oublie que
ce que vous voyez,
je mets de côté ma lecture intellectuelle, ma connaissance d'histoire d'Haïti, tout ça. Okay. On est simplement dans la rue à Port-au-Prince, c'est ça. Plusieurs VUS de luxe, plusieurs... Et des maisons, quand même, qui, cachées derrière ces murs de béton, ces surplombées de fils barbelés, des demeures, évidemment, surtout dans les quartiers riches, on s'entend, mais qui sont quand même assez cossus, tout ça. En somme, je pense qu'il y a un peu de richesse en Haïti. Ma question, comment est-ce qu'on peut envisager une forme de redistribution de la richesse qui existe quelque part en Haïti? Est-ce qu'il existe en Haïti une forme de bureaucratie fiscale, des méthodes de perception des impôts fonciers sur le revenu, des taxes, etc.? Parce que si on veut doter ce pays-là d'infrastructures minimales pour le bien-être élémentaire de la population, en termes de, je ne sais trop, de services publics, d'hygiène publique, d'école, et bon, de système judiciaire fonctionnel, un fonctionnariat qui soit minimalement satisfaisant au plan des salaires, tout ça. Bon, ça prend de l'argent, il faut vaincre la pauvreté. Or, on a vu à cet égard-là que toute l'aide humanitaire, on ne sait trop à quel point ça a pu structurer ou déstructurer Haïti, mais en tout cas, force est de constater que c'est peut-être pas là que se trouve la solution. Est-ce que la solution se trouverait pas au sein même de la société haïtienne, hein? Et voilà, et comment envisager une forme de redistribution, de perception de redistribution de la richesse en Haïti? Est-ce que c'est quelque chose de réaliste, ne serait-ce que graduellement? Est-ce que c'est quelque chose de pensable en ce 21e siècle afin d'améliorer la situation pour le moins précaire de ce magnifique peuple, de ce beau pays qui malheureusement vit des heures de misère?
Bon, ça, je dirais que c'est la question fondamentale qui explique le mal haïtien complètement. Et pour en répondre, il faudrait toute une batterie de sociologues, d'économistes, d'historiens et autres pour débattre sur la question. Mais moi, ce que je dirais tous, pour résumer un peu tout ça, Haïti est construit et basé sur une distinction sociale trop flagrante. Et cette distinction sociale est à la base de toutes les violences qu'il y a en Haïti. Et la distinction sociale, elle est d'abord économique au niveau de la répartition des richesses. Parce que tous les économistes, c'est pas difficile d'identifier facilement qu'Haïti, toute la richesse est contrôlée par quelques familles. On ne parle même pas de dizaines de familles qui détient 90% de la richesse en Haïti. Et cette richesse, c'est quoi? C'est des familles qui monopolisent et qui acceptent, qui s'entendent entre eux pour que l'économie haïtienne repose uniquement sur le commerce, acheter des biens de l'étranger et venir vendre en Haïti. En empêchant toute velléité de développement de la production nationale. Et ça, ça a été historique. On peut expliquer ça. Comment comprendre qu'on a fermé toutes les usines sucrières et ce sont les mêmes propriétaires des usines sucrières qui sont maintenant des vendeurs de sacs de sucre importés des États-Unis, de la Chine, des patrons. On a fermé les usines qui produisaient du ciment et ce sont ces mêmes propriétaires qui vendent maintenant du ciment. Parce que la logique, c'est quoi? C'est une logique sauvage du capitaliste qui veut que moi, je veux faire beaucoup plus de profits, je m'en fous du pays, surtout que quand je suis capable de corrompre les dirigeants, les autorités pour les aveugler de la situation du peuple. En fait, pour produire le sucre, il faut mobiliser les paysans qui cultivent la terre, qui plantent la canne à sucre. Il faut acheter cette canne à sucre de ces paysans. Il faut avoir des usines. Et pour ces usines, c'est des milliers de gens qui doivent travailler dans ces usines. Donc, il faut dépenser. Et quand on dépense comme ça, l'argent circule aussi à l'intérieur du pays. Et c'est ce qui fait marcher l'économie du pays. Mais c'est lui qui domine ça. Il s'est dit, bon, écoute, pourquoi dépenser tous ces agents pour produire le sucre si je suis capable de l'acheter à Trinidad et que j'aurai besoin seulement d'un chauffeur pour transporter mes camions de sucre d'un dépôt à l'autre. Donc, et là, je m'en fous des paysans, d'une centaine de paysans qui cultivaient les cannes à sucre, je m'en fous d'eux. Je m'en fous des milliers de travailleurs dans les usines parce que moi, ce que je veux, c'est faire beaucoup plus d'argent. J'achète le sucre, je le mets en sac et je veux deux ou trois chauffeurs pour distribuer ça.
Et cette fortune, permettez que, disons, cet exploitant, ce distributeur, finalement, réalise. Et est-ce qu'il y a un impôt sur cette fortune?
Ben oui, et c'est là aussi le grand problème. Il y a un rapport qui est sorti tout récemment, mais qui n'est pas connu du public haïtien. Et on en a parlé dans les réseaux sociaux. C'est un rapport qui a été commandé par le département d'État. Et c'est ce qui explique l'endurcissement de la politique américaine par rapport à Haïti maintenant, qu'il y a un manque à gagner de plus de 2 milliards de dollars par année qui reste entre les mains des gens en termes. C'est ce que l'État haïtien n'a pas rentré sur la taxation des produits importés. La plupart de ces familles qui dominent le commerce de l'importation en Haïti ont des franchises. Et à chaque fois, ils doivent justifier ça parce qu'ils ont eu des pertes. Des pertes quand il y a eu des problèmes politiques en 2004. Et le nouveau gouvernement, avec l'ancien premier ministre Latortu, leur a donné 4 ans d'exonération fiscale. Quand il y a eu des cyclones, on sait qu'Haïti est une route de passage des cyclones, donc on peut s'attendre au moins chaque 2 ans à un cyclone majeur. Et à chaque fois qu'il y a des cyclones, ces gens-là, à dire, bon, nous avons fait des déficits, il faut nous récompenser, on leur donne des franchises douanières. Donc ils rentrent ce qu'ils veulent et sans payer des taxes. Donc 2 milliards de dollars de perdus dans les rentrées fiscales seulement. On dit aussi que mensuellement, la contrebande a empêché à ce que Haïti rentre, rien que sur la frontière dominicaine, 20 millions de dollars par mois. Or, maintenant, on a un petit budget qui ne vaut même pas 2 milliards de dollars, 121 milliards de goudes, c'est quelque chose comme même pas 2 milliards de dollars, parce que le dollar américain, ça vaut maintenant 64 à 65 goudes. Donc les 121 milliards, c'est environ 1,7 milliard de dollars. Et ce qui ne représente même pas, je n'ose pas exagérer, mais je ne suis pas sûr que c'est le budget de l'Université McGill ici, c'est un peu plus.
Mais juste pour la Commission scolaire de Montréal, qui gère les écoles primaires, secondaires et la formation professionnelle, seulement dans une partie de l'île de Montréal, effectivement, le budget est d'un milliard.
Voilà.
Il y a une autre chose que je voudrais ajouter par rapport avec ce problème, c'est la question des classes des affaires en Haïti, qui sont pour la plupart des gens qui ne sont pas d'origine haïtienne. Ah. Ils ne sont pas d'origine haïtienne, et je pense que c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas vraiment une conscience leur permettant de prendre en compte la problématique de la pauvreté en Haïti. Parce qu'ils s'en foutent de quoi que ce soit, parce que quand vous allez dans leurs origines, vous verrez, la plupart d'entre eux, ils sont issus du Liban, de Syrie et autres. Donc, ils n'ont pas l'âme haïtienne. Et ça a créé toute une sorte de disparité entre ceux qui ont des grands moyens et les faibles qui sont habités à Cité Soleil et dans les ghettos. Donc, je pense que ce problème est vraiment fondamental, et sans oublier la corruption.
Oui, j'aimerais juste pour les gens, peut-être, et qui nous écoutent à la maison, disons, si on peut illustrer concrètement un cas, OK? Québécois, on est des gens très concrets. Par exemple, si on a un riche, disons, là, qui fait un revenu brut, disons, de 100 000 $ américains dans l'année fiscale 2017, est-ce qu'il va donner quelque chose à l'État? Est-ce qu'il va remettre un montant? Par exemple, cette même personne qui, au Québec, ferait 100 000 $ américains, repaierait en impôts. Merci. Et en taxes, environ entre 40 et 50 000 $ américains à l'État. En Haïti, est-ce que c'est zéro?
C'est un peu complexe, parce que, en fait, il y a un système de fiscal en Haïti. Ouais. Et c'est reposé particulièrement sur les produits importés.
Okay, c'est
le recette douanière.
Okay.
L'État taxe beaucoup, le niveau de taxation est très élevé en Haïti, sur de l'ordre, et pour l'essence, je crois, c'est de l'ordre de 55%, et pour les habits et autres, c'est jusqu'à 40-45%. Mais c'est des taxations qui se font à la base, en amont, et que on va pas dans un magasin pour voir que ça, c'est le prix du produit et la taxe. Non, on voit pas ça, parce que l'État taxe en amont, et maintenant le commerçant, il fixe son prix en fonction de ce qu'il donne à l'État.
Mais il n'y a pas de revenu sur le revenu
personnel. C'est un premier élément. Oui, il y en a. Mais ce que je voulais dire à ça, et si vous entendez le discours du président, là, je vais dans sa lignée, il parle de la corruption, corruption qui gangrène Haïti. C'est-à-dire que ces agents-là, on n'est pas sûr que 50% arrivent dans les caisses de l'État à cause de la corruption. Et la corruption, ce n'est pas uniquement, comme mon confrère disait tout à l'heure, il parlait d'origine de l'élite haïtienne. Oui, c'est une problématique si on veut aller dans la dimension conscience. Mais la corruption n'implique pas seulement ces gens-là, mais c'est aussi l'ensemble des fonctionnaires qui travaillent dans le système. Suivez l'actualité en Haïti, vous allez entendre parler de ce rapport sur l'agent Petro-Caribé qui vient de la collaboration entre le Venezuela et Haïti. C'est plus de 3,5 milliards de dollars qui ont été gaspillés pendant 5 ans sur... Je crois, pendant une période de 7 ans, fin du gouvernement de Préval, les 5 ans du gouvernement de Martelly, et l'actuel gouvernement n'a même pas hérité d'un sou parce qu'il n'y a plus d'argent, alors que Haïti doit remettre au Venezuela près de 23 millions de dollars chaque année comme service de la dette. Donc, la corruption, c'est le premier élément. Mais aussi, par rapport à votre question sur la taxe sur les revenus. Mais ces gens-là, effectivement, qui rentrent de l'argent. On ne peut pas dire que tous n'ont pas payé les impôts parce qu'ils paient en fonction des entreprises qu'ils dirigent et certaines entreprises payent les impôts. Mais pour une population d'environ 10 millions d'habitants, regardez le niveau d'emploi. Dans la sous-traitance qui emploie beaucoup plus de personnes en Haïti, on n'a pas, pour l'instant, je crois qu'on n'a pas, on n'a pas 50 000 personnes qui travaillent dans la sous-traitance. Et combien ils gagnent? Les gens de la sous-traitance ne gagnent pas 300 $ le mois. Et ce sont ces gens-là qu'on taxe. Même quand il n'y a pas un système établi pour produire et son, comment on appelle ça encore ici, sa déclaration d'impôt définitive chaque d'impôt. Année, mais l'État prend ça de manière forfaitaire et c'est à 1000 gouttes par citoyen et obligatoirement tu vas payer cet argent si tu as besoin d'un service, si tu ne le payes pas, tu n'auras pas ce service. Et on parle même d'aller prendre ça à la source pour les gens qui travaillent dans ce secteur-là et pour les gens qui travaillent dans les ONG. Mais ça ne fait pas beaucoup d'argent parce que l'assiette fiscale par rapport aux gens qui travaillent, c'est peu. Si on n'a même pas le secteur public haïtien, c'est environ 60 000 employés. Dans le secteur privé, c'est moins que ça, 30 ans à 40 000. Les ONG, c'est 5 à 10 000. Et ce sont les ONG qui sont les meilleurs payeurs. Mais ça ne fait pas de l'argent pour entretenir une population de 10 millions. Donc, vous savez, il y a de cela 4-5 ans, le budget haïtien est appuyé à 70% par la communauté internationale. Mm-hmm. Donc, on est d'accord que c'est un pays pauvre. Mm-hmm. Mais ça ne veut pas dire que la richesse n'est pas là. Donc, comment comprendre les barrières politiques et sociales qui empêchent d'aller extraire ces richesses, l'or qui existe, etc. Donc, là, si c'est des dimensions que moi, je n'ai pas encore assez réfléchi sur ça. Et je crois que les intellectuels haïtiens ont cette responsabilité de réfléchir pour savoir pourquoi ça bloque, pourquoi ce pays ne veut pas démarrer, pourquoi ce pays ne veut pas décoller. C'est un problème majeur, effectivement, comme vous l'avez dit, il faut de l'argent pour développer le pays. La pauvreté est le problème majeur parce que des gens pauvres ne peuvent pas aspirer au développement. On aura toujours des détritus dans la rue parce que les gens, non seulement ils sont pauvres, mais ils n'ont pas aussi l'éducation qui va avec pour protéger l'environnement et autres. Les gens analphabètes, c'est à 48% le taux d'analphabètes, les gens qui n'ont pas de culture d'éducation, c'est normal que le langage sur le développement durable, sur la protection de l'environnement, ils n'ont pas ça. Les gens dont le premier souci, c'est de trouver un bol de riz pour la journée, c'est même pas ce qui va se passer demain. C'est le premier souci de la personne, c'est de se réveiller et dire, mais qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Donc, on n'a pas le temps de réfléchir à au pile de détritus qui est à côté ou à autre chose. Donc, c'est un problème majeur, mais on peut toujours se demander pourquoi un pays qui a une histoire si
glorieuse
et après est tombé dans cette merde, excusez-moi l'expression entre guillemets. Mais il faut aller questionner aussi cette distinction sociale. Je crois qu'il y a un sociologue, Lainé Coubon, qui est professeur à l'UQAM, je crois, ici, qui écrit un livre sur la société haïtienne et qui parle de la distinction sociale, la discrimination. Moi, je me souviens que je parlais à un professeur québécois qui me disait que vous autres haïtiens, vous ne pouvez pas dire que et vous avez subi de la discrimination au Québec, ou vous ne pouvez pas dire que les Blancs sont discriminateurs, parce qu'il a fait seulement 15 jours en Haïti, et il s'est rendu combien la société haïtienne est discriminatoire. Moi, avec mes cheveux crépus, ma couleur, il y a certains restaurants à Pétionville, si je rentre, on va me regarder mal. On va me regarder mal jusqu'à ce que j'aurai envie de quitter, de sortir. Donc là, en Haïti, c'est-à-dire que et les fondements de la distinction sociale sont tellement pesant sur cette société et ça a grandi la pauvreté, ça a grandi la violence et la distinction. On l'a dit, c'est au niveau économique, c'est au niveau éducation aussi. L'école en Haïti, c'est une école multiple. L'école où va, bon, il faut le dire malheureusement, mon enfant, c'est pas l'école où va et le gardien qui est chez moi, puisque bon, heureusement, je travaille, je suis capable de payer un gardien, mais l'école de mon enfant, c'est pas l'école de mon gardien. La chance qu'aura mon enfant demain pour voyager, pour aller à l'université, dans de grandes universités, c'est pas la chance qu'a le fils de mon gardien. Mm-hmm. Et l'école publique, et je viens de vous dire comme gros problème, les lycées en Haïti, s'il y a 180 jours fixés dans l'année, eux, ils vont avoir 80 jours de classe. Mm-hmm. Et des fois, il y en a qui ferment toute l'année. L'université en Haïti, il y a sur les 11 unités, je crois qu'il y a 3 ou 4 qui ne fonctionnent pas depuis près de 2 ans, je crois. Mm-hmm. La faculté d'ethnologie, qui est une faculté qui est orientée vers la réflexion sociale, qui produit des anthropologues, des sociologues et autres, mm-hmm. la faculté des sciences humaines, la faculté de l'INAGUE, l'école normale supérieure qui produit des enseignants. Tout ça, donc, c'est
une société comment, malade. Autre grande question, après la question de la redistribution de la richesse, bon, évidemment, vous avez mentionné l'obstacle de la corruption qui paraît omniprésente, qui gangrène l'État, bon. Avez-vous réfléchi à une manière qu'on peut...
À des solutions.
Et je peux m'imaginer que... Parce que le thème de la conférence, c'est les défis. Mm-hmm. Alors là, c'est tout un défi. C'est un défi herculéen peut-être, mais...
Oui.
Dans un pays, bon, gangréné par la corruption, comment est-ce qu'on entrevoit un avenir? Comment on entrevoit la manière de vaincre cette corruption?
On l'a dit, et ça vient pour l'instant, et ça doit venir de la société civile. Parce que les classes dominantes, et même ceux qui sont au pouvoir, j'ai comme l'impression que ça ne leur dérange pas, puisque mm-hmm. ça leur arrange même, puisque c'est eux les bénéficiaires de ce système.
Donc la société civile comme contre-pouvoir, civile. Pouvoir de
comme
surveillance.
Comme contre-pouvoir, pouvoir de surveillance.
Y compris pour les médias, je présume.
Et les médias doivent faire, je crois, et doivent prendre part dans cette lutte aussi. Et malheureusement, les médias de nos jours sont asservis. Et comme cette classe dominante qui a les moyens capables d'acheter les médias, donc on est en train d'assister à ça aussi. Mais heureusement, il y a des poches de résistance quand même. Mmh. Donc, je dirais que la cause n'est pas tout à fait perdue jusqu'à présent, parce qu'il y a encore cette bataille, cette hantise de vouloir demander des comptes par rapport à la corruption, mais le signal ne vient pas d'en haut, on ne voit pas. Vous entendez le président parler dans son discours de la corruption, mais aucun acte. Regardez comme exemple. Mm-hmm. Le Sénat a fait un rapport. Il peut y avoir des problèmes de méthodologie, mais ils n'ont pas menti dans le rapport. Tout le monde sait que 3 milliards de dollars ont été dépensés et on n'a pas vu les résultats. Un petit pays comme Haïti, qu'on dépense 3 milliards de dollars, si on ne voit rien, ça se voit. Mm-hmm. 3 milliards de dollars, mm-hmm. c'est pas 3 dollars, c'est pas n'importe quoi. Donc, quelle est la réponse qui circule autour du pouvoir maintenant des conseillers du président de la République, le chef du cabinet du président de la République? Tout le monde est monté au créneau à la presse pour dire que c'est un rapport politique qui vise à dénigrer des gens. Donc, tout le monde est clean en Haïti. Donc, on s'attend à rien. C'est comme une montagne qui va accoucher d'une souris. Mm-hmm. C'est un rapport qui fait rire, mais on sait très bien que tout ce qui est dit dans le rapport, ce sont des vérités, parce qu'effectivement, l'argent a été détourné. Des projets ont été annoncés et n'ont pas abouti. Des projets et bidons aussi, des projets et je dirais fantômes qu'on n'a pas vus, mais l'argent est dépensé. On prend l'exemple de routes qui ont été annoncées, mais sur, par exemple, on parle d'une route d'environ 21 km, il n'y a même pas 5 km qui ont été construites. On parle d'écoles, de lycées qui ont été construits où les dépenses sont estimées. Je prends l'exemple du lycée Alexandre Pétion, des dépenses sont estimées à 18 millions de dollars, mais d'autres experts ont pu voir que visiblement c'est une école qui devrait coûter dans les 5 à 10 millions de dollars pour son passé et le reste. Et ça, c'est la même chose. Par exemple, on parle d'un marché à Fontamara, d'un marché de poissons qui n'est même pas encore à moitié fini. Et déjà 13 millions de dollars sont déjà dépensés. Et d'après des experts, c'est quelque chose que 2 millions auraient pu faire. Mais 13 millions sont dépensés et c'est pas fini. Et c'est même des projets, on ne voit même pas leur sens. Pourquoi un marché de poissons, dans un pays qui a besoin des hôpitaux, d'écoles, qui a besoin de grandes infrastructures. Bon, je n'ai rien contre les marchands de poissons, mais
Mais la pêche n'est
c'est
pas développée
pas,
aussi.
la pêche n'est pas développée. Donc, vous faites un marché de poissons et il n'y a même pas de poissons pour vendre dans ce marché-là. Donc, voilà,
Je
je
sais pas
crois que
si permettez.
c'est.
Alors, parmi les gens qui sont présents ici à la maison du Gilles Duvernay, est-ce qu'il y aurait des questions pour nos invités?
Vous avez me manqué. Je suis arrivé avec une toux.
Oui.
Ça veut dire que je ne suis pas dans les bonnes conditions physiques pour entrer dans ce débat-là.
Mais vous êtes là quand même.
Je suis là quand même. Et j'ai entendu et j'ai appris. C'est ça qui est important. Si je viens là et que je n'apprends pas.
Attention, il faut qu'il se nomme, il faut
Oh.
qu'il se décline.
Bon, je dois me présenter. J'ai plus d'une cinquantaine d'années d'enseignement. Enfin, hein, je suis un écrivain et j'ai même reçu une plaque de l'UNESCO pour tout ce que j'ai fait dans le domaine de la création artistique, littéraire, et pour mes 50 années dans l'enseignement. Mon vrai nom, c'est Yves Médard. Mais mon nom de plume, c'est Rassoul Labuchet. Je suis assez connu dans mon pays et même à l'extérieur.
Je connaissais le nom, mais je ne disais
Oui.
rien. C'est quelque chose parce qu'il est un ancien maire.
Et
Voilà.
un ancien maire.
Okay.
Un ancien maire. Et la question majeure, je crois que vous l'avez souligné à peu près, qu'est-ce qu'on peut faire? À quoi on peut s'attendre pour sortir de tout ce que vous avez souligné de négatif et qui nous empêche de faire des petits pas en avant. C'est la grande question. Et cette grande question nous concerne plus fondamentalement parce que Haïti, je ne dis pas comme les gens disent en général, c'est un cas particulier. Tous les cas sont particuliers. Hein? Haïti n'est pas un cas particulier. Quand on parle de travail, on dit que bon, c'est comme si le travail, c'est ce qui peut, qui doit exister pour les gens qui travaillent dans l'administration. Mais nous avons à peu près, hein, 40 et plus pour cent de la population qui travaille à la campagne. Quelles ont été les mesures sérieuses prises pour résoudre les problèmes de base de la paysannerie? C'est un problème fondamental. Ce n'est pas seulement les gens qui travaillent dans l'administration, je suis député, je suis sénateur, j'occupe tel poste. Ça, c'est rien. Ça, c'est ce que je veux appeler une miette dans la société haïtienne. C'est rien. Mais les gens qui travaillent, même quand je lis les journaux, on ne parle pas des problèmes majeurs du paysan. Or, ce sont les paysans qui produisent une grande richesse dans ce pays. On n'en parle pas. Prenez les journaux pour voir. Il y a eu des meurtres là, il y a eu des problèmes ici, des problèmes là. Mais ces problèmes, c'est rien du tout. Tant qu'on n'arrive pas vraiment à prendre en considération les revendications sérieuses des paysans haïtiens. Hein? J'ai milité aussi dans la paysannerie et aussi dans le syndicat. Donc, ce que je veux dire, c'est très important. Selon moi, peut-être ce que je vais dire, n'a aucune importance pour les gens qui sont dans l'administration haïtienne. Tant qu'on n'arrive pas à poser le problème majeur de ce pourcentage de travailleurs haïtiens, les paysans, le pays ne va jamais changer. Mais jamais. Je prends un exemple, je ne veux pas entrer dans des questions qui... dans des questions qui font trembler. J'ai vécu pendant 2 ans à Cuba. Dans les journaux, la production caféière a augmenté de 15%. La production, le nombre de gens maintenant qui lisent, c'est tel pourcentage. Et quand on lit ça, on a des chiffres. On ne peut pas opérer sans les chiffres. On a donc des chiffres qui peuvent à ce moment-là guider nous autres, intellectuels, nous autres qui occupons les grands postes. C'est vrai. Mais quand pendant les 2 ans, je prends n'importe quel journal cubain, on a le pourcentage de nombre d'abricots ou de cocotiers et tous les jours. Bon. En Haïti, on parle à la radio, il y a eu des meurtres, etc. Oh, le pays traverse une crise terrible. Mais c'est rien. Ce qu'on a comme crime, corruption en Haïti, absolument rien. Parce que, moi je dis absolument rien. Parce que, en Amérique du Nord, il n'y a plus de crime par jour. OK? En Amérique du Nord, il n'y a plus de corruption. Mais beaucoup plus de corruption que la corruption en Haïti. La corruption en Haïti. Quelques-uns font des détournements. Quelques-uns possèdent de façon injuste ou de façon... Enfin, ce sont des corrupteurs primaires qui prennent à droite et à gauche, font signer des papiers. Mais c'est rien. En comparaison aux grandes corruptions aux États-Unis, au Canada. Donc, je crois que tant que cette classe ouvrière, on a parlé de conscientisation là tout à l'heure, n'arrive pas à avoir des chefs politiques capables de les mobiliser et ensemble de dire nous ne voulons plus ça. Et comme c'est une classe nombreuse, alors les gens maintenant, les minoritaires qui sont au pouvoir, vont dire il faut faire attention maintenant. Regardez comment les paysans parlent. Et on en trouve partout, hein. Mais partout. Dans un taxi, dernièrement, j'ai rencontré un paysan, analphabète. Il m'a dit, mon cher, je suis ici, je vais faire le taxi. Ma situation a amélioré pour moi-même. Mais pour mon pays, c'est rien. Qu'est-ce que c'est que moi-même, en tant qu'unité, en tant qu'une seule personne? Un paysan, hein. C'est-à-dire, son raisonnement, c'était un raisonnement correct. Et quand on peut trouver, quand on arrive à trouver 100 000 personnes dans la paysannerie pensant ainsi, qu'on va rajouter en prison, ni figer dans les rues, le pays va changer. Voilà.
Oui, en réaction, effectivement, dans mes considérations, je n'ai pas parlé de la paysannerie, j'ai seulement effleuré pour dire que l'économie haïtienne n'est pas assez sur la production nationale, c'est plutôt le commerce, parce qu'effectivement, on a abandonné cette paysannerie et ça a été toujours exclu et ça fait partie de, si vous lisez un peu les analyses des économistes haïtiens et des sociologues haïtiens, ça fait partie du système d'exclusion aussi. Le paysan a toujours été tenu à l'écart de tout, à l'écart de la politique, à l'écart de l'économie, malgré qu'ils supportent l'économie haïtienne, mais de manière informelle, ils n'ont jamais été les bénéficiaires du café. Vous savez très bien que même quand on exportait du café, c'est pas le paysan qui bénéficiait de rentrées du café. Le riz de la Thibonite, c'est pas le paysan qui cultive le riz qui bénéficie de ça un peu. Toutes les filières, on peut voient la même chose. Donc, mais par rapport à ce niveau, hein, moi j'ai toujours pensé effectivement que pour sauver Haïti, pour sauver Port-au-Prince, la République de Port-au-Prince, il faudra, et absolument, il faudra commencer par sortir de cette République de Port-au-Prince pour aller et créer des espaces de vie ailleurs, dans le milieu rural. D'ailleurs, c'est là où il y a des espaces. Maintenant, Port-au-Prince, pour moi, c'est saturé, c'est fini. Je le dis à des amis, moi, je ne vois pas comment on peut revitaliser la métropole haïtienne de Port-au-Prince. Il faut détruire tout. Tout, je dirais, c'est des corridors. On ne circule pas à Port-au-Prince. C'est vrai ici aussi, sur vos autoroutes, il y a de l'embouteillage parce que vous êtes nombreux. Mais Haïti, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup, pas parce que tout le monde a des véhicules, mais c'est parce qu'il n'y a pas de route. C'est parce que, en fait, la population s'agrandit. Je prends l'exemple de la plaine du cul-de-sac. Avec les problèmes de l'insécurité dans les années 2004, et tout le monde qui avait des constructions en plaine, ils fuyaient la plaine, et ceux qui sont partis venir vivre au Canada et aux États-Unis, en France, un peu partout, ils ont laissé leur maison, et il y a d'autres qui cherchent à habiter au centre-ville de Port-au-Prince et ailleurs. Mais le tremblement de terre de 2010 a changé les donnes. Les Port-au-Prince, là, le centre-ville de Port-au-Prince est complètement détruit et tout le monde revenait vers la plaine du cul-de-sac. On a enregistré un déplacement massif d'environ 500 000 personnes vers la plaine du cul-de-sac, vers Croix-des-Bouquets, Gantier et la nouvelle zone qu'on appelle, c'est quelque part où il n'y avait rien du tout, qu'on appelle Onaville maintenant, Jérusalem, c'est beaucoup Canaan, c'est des noms bibliques. Il y avait, avant 2010, il n'y avait même pas de maison. C'était des zones complètement vides. Mm-hmm. Et là, on peut, et je n'exagère pas, compter 200 à 300 000 habitants dans cette agglomération. Mais c'est encore les mêmes routes. Personne n'a vu ce développement, ce déplacement de la population pour faire coïncider le développement qui devait aller avec. Donc, c'est pour ça que si vous allez vers Croix-des-Bouquets avec la seule route qu'il y a, ou soit la route nationale ou la route qui est de tabac, et des fois on peut passer 3-4 heures en voiture sur des routes que normalement on aurait pu faire en 5 minutes. Donc c'est pour ça, moi je pense que pour sauver Port-au-Prince, pour reconstruire Haïti, on ne peut pas commencer par Port-au-Prince, il faut penser ailleurs. Mais malheureusement, moi, ce que j'assiste, ce que je vois, et j'évoque encore cette distinction sociale qui a toujours été aussi le problème, c'est que le pays, ça a toujours été Port-au-Prince et le désert haïtien, pour paraphraser le livre sur Paris et le désert français.
J'aimerais ajouter quelque chose par rapport à votre intervention, surtout la problématique de la paysannerie que vous avez évoquée dans votre intervention. Moi, je crois que suite avec la façon dont les paysans travaillent, le système ACAE qu'ils utilisent, on devrait repenser cette question tout en essayant de mettre en avant la modernisation. Parce que sans une modernisation de l'agriculture, je suis certain que l'agriculture ne va jamais donner des résultats. En plus de ça, l'intervention de mon collègue, quand il a parlé de problème de la migration, où il y a beaucoup d'Haïtiens qui quittent le pays pour aller ailleurs, eh bien, en grande majorité, ce sont les gens de la paysannerie qui quittent le pays. Donc, c'est pour vous dire, c'est par rapport avec le problème social, l'agriculture n'arrive pas à donner des résultats vraiment pour répondre aux besoins quotidiens de ces paysans. Donc, ils n'ont pas d'alternative sinon d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs. Donc, je crois que si on veut véritablement poser le problème de l'agriculture en Haïti, il faut combattre aussi la corruption. Mais c'est la corruption qui empêche vraiment la modernisation de l'agriculture. Parce que l'argent du Pétro-Caribé, ce programme-là qu'Haïti a développé avec le Venezuela, si le gouvernement avait une vision réelle du développement du pays, on devrait prendre beaucoup d'argent pour pouvoir investir dans l'agriculture. Et il y avait même un programme pareil, surtout avec les vivres alimentaires, parce qu'on avait demandé à l'État haïtien, en contrepartie, pour donner des vivres alimentaires
Venezuela.
Au Venezuela. Malheureusement, à la dernière minute, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont recouru à la République dominicaine pour acheter les produits au lieu d'investir dans l'agriculture haïtienne.
Mais mon problème, c'est ce « on ». Parce que quand on... Excuse-moi, juste un moment. C'est, en Haïti, c'est quand on dit ce « on ». Des fois, on jette la responsabilité sur le dos des paysans ou des jeunes. On dit que, bon, les jeunes partent. Mais regardez l'histoire. On peut aller dans l'histoire et des Européens aussi, à certains moments. Quand ça n'allait pas au Moyen-Âge et autres, au début du capitalisme, où le système social s'est transformé et que les gens n'avaient pas d'emploi, mais tout le monde quittait la France, quittait l'Europe pour venir au Canada, pour venir... aux États-Unis, un peu partout. C'est la dynamique humaine. Les jeunes, avec beaucoup d'énergie, ils vont pas rester périr quelque part s'ils n'ont pas d'espace pour s'épanouir. Donc, ils cherchent ailleurs. Alors, c'est ce qui arrive quand on dit toujours c'est « on », mais on a toujours aussi oublié que c'est l'élite qui mène une nation. C'est... Et toutes les fois que cette élite ne prend pas ses responsabilités, c'est sûr qu'on a besoin de la pression populaire et autres, mais même pour organiser cette pression populaire, il faut une élite au niveau de la masse populaire aussi. Et c'est pourquoi que moi j'ai toujours dit toutes les luttes et politiques, toutes les luttes sociales haïtiennes ont abouti sur des échecs parce qu'il n'y a jamais une élite consciente qui prend... et qui l'avant-garde qui se met à l'avant-garde de ces luttes et qui disent que on va aller jusqu'au bout de ça parce qu'à chaque fois qu'ils arrivent à un certain point, ils négocient et ça se termine là. C'est ce qui s'est passé en 1986 après le départ des Duvaliers. Donc là, ceux qui étaient à l'avant-garde ont négocié, ils ont pu bénéficier de leurs petites choses et ça se termine là. C'est ce qui s'est passé après, quand la Valace a pris le pouvoir. Au début, il y a eu un coup d'État. Après, on a négocié. C'est vrai, au début, on sentait que les revendications populaires étaient là. On sentait que la masse était au pouvoir. Mais il y a eu ce coup d'État qui a cassé un peu cette mouvance. Et après, quand le père Jean-Bertrand Aristide est retourné au pouvoir en 1994 avec la bénédiction de Clinton, ce n'était plus le prêtre de Saint-Jean Bosco. Quand il est revenu au pouvoir en 2001, ce n'était plus le prêtre de Saint-Jean Bosco. Ainsi de suite. Alors, c'est pour ça que moi, je pense que quand on parle de ce « on », c'est la question de quelle élite qui va prendre cette responsabilité pour déconstruire d'abord ce qui est construit mal et reconstruire une nouvelle société avec des nouvelles philosophies, des nouvelles visions. Pour que l'Haïtien sache que ce pays leur appartient et que c'est à eux de développer le pays. Parce que, vous l'avez souligné tout à l'heure, je crois qu'il faut finir. Et on a vu que l'assistance humanitaire, ça ne va... Au contraire, ça alourdit les possibilités de développement. Ça encourage même les violations des droits de l'homme. Donc, il faut finir avec... On aura toujours besoin des bons samaritains qui peuvent toujours aider. Mais il faut finir avec l'aide humanitaire pour passer à l'aide au développement. Mais je l'ai toujours dit aux amis haïtiens, la communauté internationale ne va jamais passer à l'aide au développement quand vous êtes à ce point de corruption. Et là, c'est là, quelque part, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon aîné Rassoul. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de corruption au Canada et autres, mais c'est comme quand on tient quelqu'un, je ne sais pas si je vais dans des mauvaises avenues, mais je me souviens de l'ancien maire Tremblay, de ce qui se passait à la mairie. Mais avec la commission qui était mise en place, vous voyez ce qui s'est passé. Le maire était obligé de démissionner, des gens sont arrêtés et autres. Mais en Haïti... Malgré toute cette histoire de corruption, il y a eu dans toute l'histoire haïtienne un seul procès contre la corruption en Haïti, c'est le procès de la consolidation. Mais, le procès de la consolidation, mais vous savez ce qui s'est arrivé? C'était le procès sur Alexis. On a condamné un banquier français, et je vais citer des noms, et vous autres qui êtes haïtiens, vous allez reconnaître ces noms. Saint-Sénatus Auguste, Michel Aurès, Aurès Zamor, Davilma Théodore. Si vous connaissez l'histoire haïtienne, qui étaient ces gens? Ils étaient tous des anciens présidents après avoir été condamnés pour corruption. Et le banquier français, l'ambassade de France est venue pour dire non, vous n'avez pas le droit, au nom du droit international, de mettre un Français en prison. Donnez-nous notre Français, on va l'emprisonner en français. Il a été retourné dans son pays. Mais pour remercier nos bons corrupteurs, Saint-Sénatus Lecomte a été élu président de la République, Michel Aurès a été élu président de la République, Tancred Auguste a été élu président de la République. Donc, c'est pour dire que nous avons développé cette culture que ceux qui volent l'État, ce sont des intelligents et des bonnes personnes, donc il faut même les remercier. Donc, c'est pour dire que c'est la même histoire qui va se passer avec le rapport du sénateur Beauplan. On aura beau dénoncer des gens, mais ils sont au pouvoir, ils vont rester, ils vont même pas démissionner. C'est là le problème. Ils n'ont même pas le gêne, la honte de démissionner pour dire, bon, on m'a surpris, j'ai volé, je dois laisser la place. Et qui nomme les commissaires du gouvernement qui ont la responsabilité de la poursuite pénale? Ce sont ces mêmes corrompus. Je suis ministre de la Justice, je ne suis pas proche, je suis corrompu, mais je te nomme commissaire du gouvernement. Est-ce que tu vas me poursuivre?
Donc, sans impunité, autrement dit.
Donc, l'impunité est organisée de telle sorte aussi que les élites haïtiennes, les autorités haïtiennes s'organisent pour être ce qu'on appelle, il y a un mot très fréquent en Haïti, immunité. Tous les gens, tous les chefs ont immunité en Haïti. Dès que tu es un petit chef, même un policier que tu as le droit de faire ce que tu veux, on ne peut pas t'arrêter. Bon, en fait, je caricature un petit peu par les policiers, mais on n'arrête pas un député, on n'arrête pas un sénateur, on n'arrête pas un ministre. On ne peut pas les poursuivre. Et c'est légal, c'est la loi. Et la population accepte. La société civile ne dénonce pas assez. Donc, moi, je l'ai dit souvent, c'est une société malade dans toutes ses os et sa chair. Donc,
Écoutez, M. Pierre, M. Mémé, encore une fois, merci beaucoup. On vous applaudit. Et on a largement... largement dépassé notre temps, mais la durée de cette émission, ce qui s'est finalement transformé en émission. Et merci encore une fois infiniment. Alors, on va vous laisser retourner dans votre pays où il y a de grands défis. Et je pense que toute la société, tout l'ensemble des Québécoises et Québécois sont extrêmement sensibles à cette réalité. Et nous allons poursuivre, évidemment, quant à nous, nos activités, nos conférences, nos émissions et, bien sûr, notre plan de délégation en Haïti qui va se déployer dans les prochaines années. On va essayer de soutenir les efforts de la société haïtienne dans une perspective de développement et certainement pas dans une perspective humanitaire, puisqu'on y trouve une forme de néocolonialisme et perspective de développement, évidemment, à la hauteur des moyens qu'on va pouvoir y investir. Mais je pense que ici et là, à Montréal, au Québec, il y a un intérêt, il y a une très forte communauté haïtienne. Et je pense qu'on va savoir les mobiliser. Alors voilà, donc on se dit à la prochaine fois et puis merci aux participants et voilà, à la prochaine fois, merci encore. Merci.